I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, mettez votre casque et chaussez vos crampons, on va parler draft, voilà nos podcasts par position et aujourd'hui on va s'occuper de l'intérieur de la ligne défensive, les defensive tackles et attention c'est pas la meilleure QV du monde mais il y a quand même de sacrés candidats et pour en parler je suis avec Kevin Zermatten, comment vas-tu Kevin?
Hello, ça va bien, merci et toi?
Bah oui, moi ça va très bien, dès qu'on parle draft tout va bien, donc on est en plein process, voilà on a terminé le combine. Et on va commencer donc avec cette QV, il y a un numéro 1, c'est le numéro 1 incontesté à cette position, mais évidemment, vous savez, il y a aussi un petit peu d'extra sportif. Je parle bien entendu de Jalen Carter, le joueur de Georgia. On est obligé, on va commencer par là, voilà, vous l'avez appris pendant le combine, Jalen Carter est impliqué dans une histoire de course de voiture, mais en plein centre-ville, et avec une fin très tragique, puisqu'il y a eu deux morts, voilà, deux morts, et pour l'instant, donc, Jalen Carter a été entendu par la police, puisqu'apparemment, il faisait partie de cette course-poursuite. Quel est son taux d'implication? On ne le sait pas pour l'instant. Ce qui est certain, c'est qu'il est impliqué, donc du coup, ça va forcément affecter son statut lors de la draft, mais à quel point, voilà, ça, on est obligé d'attendre les suites de l'enquête pour savoir si, ben, éventuellement, il ne sera pas drafté du tout, et peut-être même qu'il ira en prison, etc., on ne sait pas, peut-être qu'il est très peu impliqué, écoutez, on ne va pas s'avancer, on va juste attendre un petit peu l'enquête, et puis, de ce que j'ai pu comprendre, ça va, on en saura davantage mi-avril, donc on va attendre la mi-avril, et puis on verra bien pour ce statut-là. Donc du coup, on va quand même parler un petit peu du joueur, parce que le joueur, lui, il est monstrueux, il est excellent, il est double champion universitaire avec Georgia, voilà, c'est un joueur qui est très puissant, voilà, très bon en run-stop, très puissant, en plus de sa puissance, il est très explosif sur ses appuis. C'est quelqu'un qui est polyvalent, voilà, du fait qu'il soit puissant et explosif, vous pouvez l'utiliser de 0 technique à 5 techniques. Alors à NFL, il ne jouera pas 0 technique. 0 technique, je le rappelle vite fait, c'est-à-dire aligné face au centre offensif, et jusqu'à 5 techniques, c'est face au tackle offensif. Mais voilà, c'est vraiment un joueur que vous pouvez balader un petit peu de partout sur la ligne défensive, et ça c'est également très précieux. Il n'est pas parfait non plus, par exemple, je trouve qu'il est... Lorsqu'il fait face à des joueurs très puissants, par exemple, on l'a vu cette année contre Florida, il faisait face au super guard Osiris Torrance, et il a souvent été contenu par Torrance parce que il manque un petit peu de move, il va falloir qu'il développe un peu ses techniques de bras, parce qu'au niveau des pieds, et voilà, on l'a dit, son jeu de pied, il est très explosif, mais il faut qu'il se développe encore au haut du corps pour vraiment se défaire de tout ça. Mais sinon, c'est un super joueur. Mais bon, voilà, moi, il me fait beaucoup penser à Jeffrey Simmons des Titans parce que c'est ce type de defensive tackle qui est très intimidant parce que, voilà, c'est quelqu'un de féroce. Les coureurs vraiment sont mis à mal face à lui. Et puis, il peut apporter également en pénétration comme Jeffrey Simmons. Mais bien sûr, voilà, on va attendre l'enquête policière pour en savoir plus sur son statut à la draft. Mais un petit mot, Jalen Carter, Kevin.
Non, alors tu as pas mal dit de choses. C'est vrai que c'est sûr qu'il y a cette chose de l'enquête est très très importante dans ce processus draft. Malgré tout, ça peut changer énormément de choses. Après, comme tu l'as dit, en fait, finalement, il aura pas mal de choses à prouver parce que justement, tout le monde est un peu plus puissant en NFL. Donc, ça veut dire que, comme tu disais, face au Osiris Torrance, ça sera ça toutes les semaines. Donc, il va falloir qu'il développe ce haut du corps si justement il arrive. La possibilité de jouer en NFL, je lui souhaite s'il a rien fait de mal. Après, justement, On verra ça un petit peu dans les prochaines semaines.
Oui, voilà. Écoutez, on va patienter, les amis. C'est un super joueur. Vous aurez d'ailleurs une présentation en vidéo de ce joueur. Mais on va attendre un peu les suites de l'enquête. Allez, on enchaîne avec d'autres joueurs intéressants. Ils ne sont pas du calibre de Jalen Carter, mais tout de même très intéressants. Et tu vas commencer, Kevin. Tu vas nous parler d'un joueur très intrigant. Il s'appelle Kalijah Kansé. Alors, il n'a pas du tout le gabarit habituel pour un defensive tackle. Mais alors, attention, quel joueur!
Oui, exactement. Alors, ben, c'est un peu comme tu l'as dit au début, c'est peut-être pas la meilleure classe de cette draft, hein, les defensive linemen, mais ben, il y a quand même des choses très intéressantes. Et Kalijah Kansé, justement, c'est un joueur super dynamique. Justement, il n'a pas forcément de gabarit, comme tu l'as dit, j'en reparlerai juste après. Il est très très agile dans les petits espaces, peut-être aussi de par son plus petit gabarit, je ne sais pas. Il compense justement ce gabarit par justement de l'explosivité. Il est capable, il est vraiment très très difficile à bloquer en fait parce qu'il va au contact comme justement bah, avec le poids qu'il a en moins, avec l'envie en plus en fait il la compense. Il rend souvent environ 15 kilos même facilement à ses adversaires et finalement ça se voit pas tant que ça. Pour moi c'est un joueur qui va passer sa vie un petit peu dans le backfield adverse parce qu'il arrive toujours à trouver une solution quasiment pour se défaire des blocs. Il offre très peu de surface pour justement pour être bloqué, donc il offre très peu de surface aux linemen offensifs, ce qui leur pose des problèmes. Et puis ben il est, moi je le trouve aussi utile face à la course contre la passe, parce que ben justement il est capable de pénétrer le backfield. Il a encore des choses à développer. Justement ben en fait son gabarit va lui probablement un petit peu l'handicaper en NFL dans un premier temps. Il va falloir justement s'adapter à des linemen plus affûtés encore. Et pour moi, cette technique, elle doit encore un petit peu justement progresser pour que justement ce problème de gabarit soit un petit peu effacé. Après, justement, bah, l'histoire, c'est que le dernier, en tout cas, un des derniers en date qu'on se rappelle qui sortait de Pittsburgh, un petit peu en dessous au niveau du gabarit, il s'appelle Aaron Donald. Et ça lui a pas posé beaucoup de problèmes pour s'adapter à la NFL. Donc on le souhaite également ça, si c'est possible. Voilà.
Oui, c'est ça, exactement. De toute façon, c'est la comparaison que vous entendrez. C'est d'ailleurs la comparaison qu'on avait utilisée sur le site. Vous pourrez retrouver cet article. Le titre, c'était Aaron Donald sort de ce corps parce qu'il se ressemble beaucoup. Mais bon, c'est vrai qu'un defensive tackle de ce gabarit, c'est tellement rare que c'est une exception. Donc, du coup, ben, on lui souhaite, évidemment, mais c'est pas garanti non plus. Mais sinon, comme tu l'as dit, voilà, c'est un joueur très intéressant parce que, encore cette année, il a fait 14,5 plaquages pour perte, dont la moitié, ce sont des sacs. Si je le précise, c'est parce que tu as mentionné qu'il est également capable contre la course. Ben oui, la moitié de ses plaquages pour perte, ce sont des sacs. Ça veut dire que l'autre moitié, c'est pour aller plaquer des coureurs avant même que ceux-ci ne franchissent la ligne d'engagement. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. C'est un super joueur. Et puis, l'année d'avant, il a fait également 13 plaquages pour perte. La moitié, c'était également des sacs. Enfin, c'est un joueur qui est vraiment très intriguant, très rapide, très explosif. Moi, je pense qu'il a marqué premier tour sur son front. Mais après, évidemment, la draft, on ne sait jamais, on verra bien. Parce que le gabarit fera qu'il sera sans doute enlevé de certains boards. Mais quel joueur, quel joueur. Écoute, si tu permets, Kevin, je vais enchaîner sur un autre joueur à gros potentiel. Il s'appelle Brian Bresee et il nous vient de Clemson. Alors Brian Bresee, c'est un joueur qui est très athlétique. Voilà, c'est la première de ses qualités. Il est vraiment très athlétique. C'est un jeu un petit peu comme Kansé aussi, très pénétrant. Alors il est moins explosif, moins rapide, mais c'est quelqu'un vraiment de très pénétrant qui va vraiment faire du grabuge au niveau des lignes offensives. C'est quelqu'un qui lui aussi est très polyvalent, c'est-à-dire que vous voulez comme Jalen Carter, même si c'est pas le même type de joueur ni le même type de gabarit. C'est quelqu'un que vous pouvez balader sur tout le front défensif. Voilà, il n'y a pas de souci. En face d'un tackle, en face d'un guard, il pourra faire ce qu'il faut à gauche, à droite, etc. Il est vraiment très très bon et surtout, il a un très gros potentiel. Voilà, c'était la recrue lycéenne numéro 1 il y a 3 ans. C'est vraiment un joueur pétri de qualité. Après, ce qui se passe avec Brian Breezy, c'est que, ben voilà, c'était donc la recrue lycéenne numéro 1. Il a fait une très belle saison freshman. Sophomore, c'était plutôt bien. Et puis, la saison junior, la troisième, ben, c'était pas, comment dire, il n'a pas été mauvais, mais c'était pas non plus la progression attendue. Voilà, il n'a pas progressé comme on l'espérait. Alors, bon, vous le savez, on en a déjà parlé dans d'autres podcasts. Il a eu des soucis vraiment extra-sportifs. Alors, lui, c'est pas du tout dans le même style de Carter, mais il y a eu du malheur dans sa famille. Donc, ça a forcément affecté son moral et donc son jeu. Mais quel potentiel! Après, bon, il n'est pas parfait non plus. Il est peut-être un petit peu raide. C'est pas celui qui a le meilleur bend. Vous savez, le bend, c'est la capacité à se pencher pour pouvoir vraiment contourner les linemen offensifs. Voilà, il est un poil raide, mais bon, ça se travaille. Mais quel potentiel ce Brian Breesy?
Oui, alors c'est vrai, ouais, bah, comme tu l'as dit, il a, on peut dire en tout cas au niveau statistique, il a un peu régressé au fur et à mesure de son cursus à Clemson. Du fait notamment justement de ces choses extrasportives pour lesquelles il ne peut rien, hein, c'est des choses qui arrivent dans la vie, et puis c'est malheureux, mais voilà. Mais c'est surtout, en fait, moi, comme tu disais, c'est sa position, on va dire, de jeu qui me pose un petit peu problème. C'est que quand je disais que Khalid Jakinci avant donnait très peu de surface à un lineman offensif pour le bloquer, je trouve que justement Brian Breesy en donne beaucoup souvent. Il donne beaucoup de possibilités et de surface du fait aussi qu'il est plus grand, hein, mais c'est quelque chose qui va devoir beaucoup travailler et être beaucoup plus, on va dire, plié pour pouvoir arriver dans le backfield ou en tout cas utiliser ses qualités.
Exactement. Il y a encore du travail, mais quel potentiel. Et puis, s'il tombe dans le bon système, moi, quelque part, il me fait penser un petit peu à Cameron Hayward, le joueur des Steelers. Voilà. Donc, un defensive end dans une défense en 3-4, et je pense qu'il sera excellent dans ce système-là. On va enchaîner avec un joueur totalement différent, avec un gabarit totalement différent. Il s'appelle Siaki Ika. Il nous vient de Baylor. Et lui, alors, attention, c'est vraiment ce qu'on appelle l'homme et demi, c'est-à-dire qu'il est immense, très imposant, très massif, très puissant. Et c'est une beauté à voir la façon dont il bull rush ses opposants. Le bull rush, c'est-à-dire, ben, il passe en force, il tend les bras et puis il enfonce tout le monde. Il est vraiment extrêmement puissant. En plus de sa puissance, je trouve qu'il joue très bas sur ses appuis. Donc là aussi, pour emporter les 1 contre 1, c'est vraiment idéal. C'est vraiment le prototype de ce qu'on appelle le nose tackle. Donc vous le savez, en anglais, nose, ça veut dire le nez. Faut tout simplement se figurer comment est alignée une ligne offensive. Vous avez vu, le centre est généralement un petit peu plus en avant que les autres linemen offensifs, donc comme le nez au milieu de la figure. Eh ben lui, c'est le défenseur qui s'aligne en face de ce centre-là, donc c'est le nose tackle. Et donc voilà, Siaki Ika, évidemment, si vous regardez ses statistiques, forcément, c'est pas flamboyant non plus. Mais c'est un nose tackle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les dégâts qu'il va faire sur la ligne offensive, ben souvent, c'est pas lui qui en récolte les fruits, parce que il va enfoncer son opposant et du coup le coureur pourra quand même s'échapper et c'est un safety ou un linebacker derrière lui qui va signer le jeu et donc sur un plan statistique ça se verra pas. Mais pourtant il aura fait un travail énorme, énorme. Après, c'est un obstacle avec toutes les limites qu'il voit avec, c'est-à-dire que oui, il est massif, il est puissant, mais il n'est pas assez fluide, il n'est pas assez explosif pour être vraiment un facteur en pass rush. C'est pas Vita Vea. Voilà, Vita Vea, c'est lui aussi un obstacle avec un gabarit imposant, mais Vita Vea, il est extraordinaire pour mettre la pression. Siaki Ika, il a encore beaucoup de travail pour devenir ce joueur-là, et peut-être qu'il ne le deviendra même jamais. Siaki Ika, c'est davantage un joueur pour les 2 premières tentatives. Vous savez, les 2 premières tentatives, il y a souvent de la course, parfois de la passe aussi, mais souvent de la course. Et la troisième, même s'il y a parfois de la course, c'est souvent de la passe. Mais sur troisième tentative, Siaki Ika, sans doute qu'il devra sortir. Et puis ce type de gabarit-là, forcément, en NFL, il ne jouera pas non plus de 50% des jeux, c'est pas possible. Avec ce gabarit-là, en étant tout le temps dans l'agression, tu as forcément besoin de souffler. Donc là aussi, pour sa cote à la draft, ça le fait baisser un petit peu. Tu peux pas investir autant que sur un Jalen Carter qui restera plus longtemps sur le terrain. Donc c'est plutôt un choix du deuxième tour. Mais l'un dans l'autre, c'est quand même un joueur très intéressant, ce Siaki Ika.
Oui, exactement. Ouais, c'est vraiment un joueur qui va permettre à son équipe d'avoir des 3 et 8, même 3 et 11 et des choses comme ça. Et c'est toujours une bonne chose, même s'il n'est pas plus de 50% sur le terrain. C'est des bonnes situations de jeu, c'est des situations qui permettent à la défense de sortir du terrain. Pour moi, ça a de la valeur, c'est clair. Après, bah, peut-être un petit peu moins que certains autres postes. Et surtout, du fait qu'ils soient un petit peu peut-être moins utilisés. Mais c'est vrai que déjà, un aussi gros beau bébé, on va dire, qui sort de Big 12, on n'a pas toujours l'habitude. Et là, c'est vraiment, en plus, c'est vraiment un gros gabarit, ouais, c'est vrai.
Ah oui, donc du coup, c'est quand même un joueur très intéressant. Et oui, moi, je pense que peut-être juste après le top 50, il est en jeu parce que voilà, ça apporte forcément à une défense un tel joueur. On va enchaîner avec un autre joueur très intéressant. Là, un profil encore totalement différent. Il est très grand, très costaud, très mobile. Il s'appelle Jervon Dexter et il nous vient de Florida.
Ouais, alors c'est vrai qu'on fait un petit peu le yo-yo avec les profils. Là, c'est quand on parle de Jervon Dexter, c'est vraiment un joueur qui est ultra rapide pour son gabarit. Il est très très bon dans la poursuite, notamment que ce soit du quarterback quand il sort un petit peu de la poche, ou alors du running back quand il fait des courses. On s'attend pas forcément à ça de sa part quand on le voit. Il a des qualités athlétiques en général assez impressionnantes. Il a un très bon bend, justement, je trouve, pour un defensive lineman, contrairement à ce qu'on a pu dire de Brian Breesy avant. C'est plutôt un spécialiste du run block aussi. Alors ça, c'est plutôt justement du côté de Siakika avant. Mais voilà, c'est un joueur qui prend un petit peu des forces de certains joueurs qu'on a cités avant, mais qui fait son propre profil. Le problème qu'il a un petit peu, c'est que, en fait, s'il gagne, il gagne très rapidement son duel. S'il gagne sur le premier, c'est en fait sur le premier mouvement, et tac, il est directement dans le backfield et il crée du grabuge. Quand ça devient un peu plus difficile, il a un peu plus de peine avec l'effort qu'il donne, justement, quand il est bloqué, il est vraiment bloqué. Et ça c'est vraiment quelque chose qu'il va devoir travailler. Pour moi, c'est aussi un titulaire probablement en NFL, mais pas sur les trois downs. Il va falloir justement travailler un petit peu cette technique de pass rush, et puis justement un petit peu cette irrégularité, parce que justement, s'il ne gagne pas avec le premier mouvement, souvent il est un petit peu bloqué. Il a aussi un peu une position haute, comme on a dit avec Brian Breesy avant. Il donne trop de surface à son lineman pour le bloquer. Et puis, ben, c'est vraiment un joueur qui a un petit peu de peine quand il est sur le reculoir, on va dire quand il a vraiment des double teams, donc deux joueurs qui le bloquent. Il a un petit peu de peine à les tenir, et puis c'est peut-être là qu'il va falloir aussi améliorer un petit peu, parce que ça crée des trous pour le jeu de course adverse ou des choses comme ça.
Oui, Garvin Dexter, moi j'aime beaucoup parce que je trouve que son plancher n'est pas le plus haut, mais par contre, quel plafond! C'est vraiment un pari sur le potentiel parce que tu vois, tu parlais de trois tentatives. Moi je pense qu'il a tout à fait le potentiel pour être sur les trois tentatives, mais pas pour l'instant. Il faut qu'il travaille, c'est quelqu'un d'encore un petit peu brut, comme on dit. Voilà, il faut le développer. Après, c'est pas étonnant non plus, il a que 21 ans. Voilà, il aura 22 ans en octobre. Hein, c'est pas dans un mois ou 2 mois, quand même, c'est dans 6 mois. Voilà, il est encore très très jeune, il a le temps de se développer. Quelque part, il me fait penser un petit peu à Javon Kinlaw des 49ers. Voilà, quelqu'un qui a eu besoin d'un peu de temps en arrivant en NFL. Donc voilà, c'est ce type un peu. Voilà, la Kinlaw, très grand, puissant, qui sait un peu tout faire, mais qui est encore très brut et qu'il faut dégrossir. Et si ça se passe bien, alors voilà, vous avez un titulaire pour les 10 prochaines années en NFL. Garvin Dexter, vraiment, c'est un très très bon joueur. Je pense que parce qu'il n'est pas tout à fait prêt maintenant, il sera plutôt un deuxième tour, même s'il y a toujours une possibilité, par exemple les Chiefs en toute fin de premier tour, mais ça serait plus un début de deuxième tour. Mais voilà, quel potentiel, Garvin Dexter. On va enchaîner avec un autre joueur, lui aussi un sacré potentiel, et là aussi c'est encore un tout autre gabarit. Voilà, c'est quand même une QV qui propose, comme tu l'as dit, vraiment tous les profils, et là c'est le profil de Mazi Smith de Michigan. Alors lui, c'est juste incroyable de voir ce joueur, tellement il est compact et tellement il est athlétique. Voilà, c'est très très rare de voir un joueur qui a ce rapport puissance-vitesse. C'est voilà, quand vous le voyez juste physiquement, avant même que le ballon soit engagé, vous dites bon, ok, d'accord, c'est un obstacle, il est très imposant, etc. Et vous le voyez bouger, vous dites oh là là, mais c'est qui ce gars-là? C'est incroyable, que ce soit la mobilité latérale, que ce soit pour aller vers l'avant, que ce soit, c'est vraiment quelqu'un de très athlétique, et ça peut faire des dégâts. Après, voilà, moi je vais arriver directement à ses limites, c'est que justement je le trouve meilleur avec ses pieds qu'avec ses bras. C'est-à-dire qu'au niveau athlétique, ah oui, il bouge très bien, voilà, il peut attaquer tous les gaps, il peut même changer de gap, c'est-à-dire changer d'opposant, etc. Il n'y a pas de problème, il peut même repartir en poursuite d'un coureur. Avec ses pieds, il est excellent. Mais avec ses bras, il est quand même très limité au niveau des mouvements. Alors écoutez, c'est pas très grave, parce que quelque part, les qualités athlétiques, c'est très difficile à coacher, même si les joueurs progressent, évidemment. Mais par contre, le travail technique, ben oui, ça s'apprend. Et donc, avec un bon travail technique, eh ben, un joueur comme Mazi Smith, vous pouvez vous dire que le ciel est sa limite, parce que si vraiment il progresse techniquement avec un meilleur positionnement des mains, avec de meilleurs mouvements variés, il pourrait devenir vraiment un defensive tackle impressionnant.
Ouais, alors c'est vrai que bah, finalement, moi, ce que j'en retiens de ce que tu dis, et je partage ce que tu dis, c'est un petit peu le Jalen Carter du pauvre, finalement. Pas du très pauvre, hein, mais il est quand même un petit peu derrière dans tous les domaines. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment cet aspect très agile avec ses jambes, un peu moins avec ses mains. Et puis, bah, la progression, justement, ça va faire énormément en NFL, parce que justement, s'il se développe un petit peu, il pourrait vraiment devenir un titulaire très intéressant. Et c'est vrai que quand on le regarde jouer, on se dit que ce gabarit-là ne doit pas pouvoir faire ça normalement. Mais voilà, c'est vrai.
Oui, c'est ça, voilà. Les fameux monstres. Vous savez, quand on utilise l'expression c'est un monstre, eh ben voilà, lui c'est un monstre. Tu te dis, mais c'est pas possible, c'est juste pas possible. Ben si, c'est possible, c'est Mazi Smith, et voilà, c'est juste incroyable. Tu vas enchaîner, Kevin, avec un joueur que moi j'aime beaucoup aussi, puis un joueur qui m'a surpris parce que je ne le voyais pas tout à fait dans ce registre, mais c'était peut-être son utilisation à l'université. Il est beaucoup plus complet que ça. Il s'appelle Keanu Benton. En plus, il a un prénom très très cool, Keanu Benton, et il nous vient de Wisconsin.
Oui, alors tu parlais de monstre, là on est un petit peu dans le registre aussi. C'est un joueur qui est extrêmement puissant. C'est vraiment, si vous regardez un petit peu des vidéos de lui, c'est le joueur qui va reculer son lineman offensif avec une seule main et plaquer le running back avec l'autre. C'est vraiment une démonstration de puissance. Il a un gabarit qui est idéal pour en gros les postes de defensive lineman. Il a une certaine. Il est relativement. Il peut jouer à plusieurs postes, je pense quand même. Même si un nose tackle, ce serait pas mal du tout. Après, en général, en fait, il donne juste beaucoup de travail à la ligne offensive. C'est très difficile à le bloquer de par sa puissance. Il a fait face à des double teams. Il a pas eu de problème avec les double teams, comme j'ai pu le dire avant avec Jarwan Dexter. C'est vraiment la puissance à l'état pur. C'est un joueur qui était un ancien lutteur, donc je pense que ça doit pas mal jouer aussi dans sa façon de jouer sur le terrain. Pour la petite histoire, il était à 48 victoires et 2 défaites, donc on imagine un petit peu le buffle. Il a des très longs bras, donc on aime bien parler des longs bras, que ce soit sur les lignes offensifs ou défensifs. Mais là, c'est vrai que ça lui apporte justement cette allonge, qui lui permet justement de faire reculer ses vis-à-vis. Et puis, ben, c'est vrai qu'il apporte aussi au niveau du bull rush, donc dans le pass rush. Mais sa technique devrait être encore un petit peu peaufinée selon moi. Et puis, ben, il y a un aspect il est très puissant, mais il n'a pas forcément le meilleur premier pas pour moi. Il va falloir peut-être un petit peu travailler cette explosivité. Et puis, ben, ça pourrait devenir vraiment aussi un titulaire intéressant au LF.
Oui, c'est vrai qu'il a encore du travail à faire à ce niveau-là, mais quelque part, il m'a quand même surpris. Parce qu'en regardant les matchs de Wisconsin dans la Big Ten, ben, il était vraiment utilisé comme un nose tackle, en plus dans une défense en 34, c'est-à-dire il était vraiment tout au centre. Et on se disait, bon ben voilà, c'est juste un joueur pour les deux premières tentatives, ce qui est déjà bien. Mais pour le pass rush, ça ne le fera pas. Et puis on l'a vu au Senior Bowl, il a été vraiment très surprenant dans tous les 1 contre 1. Alors je veux bien, le Senior Bowl, c'est des entraînements, c'est juste du 1 contre 1, c'est pas du match. Mais quand même, quoi, il a montré qu'il avait tout à fait à la fois les mouvements, se servant, comme tu l'as dit, très bien de son allonge. Mais même aussi dans son jeu de pied, il est plus explosif qu'il n'y paraît. D'ailleurs, on a vu ses mensurations, il pèse moins lourd que ce que j'avais cru quand vous le voyez sur le terrain, parce qu'il est extrêmement puissant. Et c'est quelqu'un qui finalement tout va apporter cette polyvalence-là. Moi, je pense que s'il se développe bien, il peut devenir tout à fait un joueur pour les trois tentatives. Et alors, dans tous les systèmes que vous voulez, pas forcément nose tackle dans une 34, il pourra très bien jouer également dans une 43. Je pense que c'est un joueur qui est très complet. Je pense que c'est, vous savez, parfois, il y a des joueurs dont on dit il sera meilleur pro qu'il n'a été à l'université. Alors déjà, il était bon à l'université, il n'y a pas de problème. Mais je pense qu'il peut devenir encore meilleur chez les pros. En plus, il est bien utilisé dans un bon système. Moi, quelque part, il me fait penser un petit peu à un Christian Barmore d'Alabama. Alors, les deux joueurs à l'université, je ne les voyais pas du tout dans le même profil. Mais finalement, à NFL, je pense qu'ils pourraient être utilisés de la même façon. Parce que ce sont vraiment deux joueurs qui peuvent apporter, qui peuvent être complets sur les deux aspects du jeu, de la défense, donc contre la course et même dans l'agression de la poche. Keanu Benton, pour moi, c'est aussi un solide deuxième tour. Je ne trouve pas une qualité élite, c'est pour ça que je ne le vois pas au premier tour, mais par contre, il a beaucoup d'autres qualités. Donc, du coup, ouais, pour moi, c'est facilement un second tour. On va parler maintenant, pour terminer cet épisode, de deux joueurs qu'on aime bien. Si tu permets, je vais commencer, Kevin, et je vais commencer en parlant de Zach Pickens de South Carolina. Voilà, c'est un joueur que j'aime bien parce que dès qu'il est arrivé à l'université, c'était vraiment une recrue 5 étoiles et plein de potentiel. En plus, il est arrivé à South Carolina, il n'y avait que des 5 étoiles de partout, des Jordan Birch, etc. Et puis finalement, aucun d'entre eux n'a vraiment confirmé. Au bout de 2 ans, on se disait, bon, ben d'accord, tant pis, ça fait flop, et puis ça va être tous des flops. Bon, Jordan Birch reste à l'université, vient de transférer là à Oregon, et Pickens, ça n'a pas vraiment donné. On se disait, bon, ben il sera sans doute drafté, peut-être au 6e tour, ça fera un peu de rotation, mais bon, on verra. Et finalement, l'année dernière, il a montré deux très belles choses avec South Carolina. Alors, vous savez, des fois, les joueurs, surtout, on parle de jeunes joueurs, donc ils ont la maturité, elle vient pas toujours à 20 ans, elle vient parfois à 21 ans, parfois à 22 ans. Eh ben, peut-être qu'il arrive tout simplement à maturité, et donc il a fait une très bonne saison. La saison d'avant était déjà meilleure, et en fait, quand on rate ses 3 saisons à South Carolina, il est en progression constante. Voilà. Ensuite, on l'a vu là, sur ce draft process, il a plutôt été bon. Par rapport à son physique et ses attributs, ben il est grand, il a de l'envergure, il est plutôt rapide. Il te propose de pouvoir jouer dans n'importe quel système, dans une 43, mais pourquoi pas dans une 34 également. Alors je trouve qu'il manque un petit peu de puissance, mais il a vraiment tout ce qu'il faut quelque part. J'aime bien les comparaisons, voilà, ces comparaisons n'est pas raison, mais moi j'aime bien toujours les comparaisons. Il me fait un petit peu penser à Perrion Winfrey d'Oklahoma, qui donc a été drafté l'année dernière par les Browns. Et comme je pense Perrion Winfrey, qu'on a très peu vu l'année dernière, ben Zach Pickens aura sans doute besoin d'au moins une saison à NFL, juste être amené comme ça en rotation, le temps de se peaufiner. Mais après, attention, attention, il a vraiment tous les outils à sa disposition et ça peut devenir un joueur très intéressant à NFL, ce Zach Pickens.
Oui, je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est vrai que c'est un joueur qui fait relativement bien tout, qui n'a pas vraiment encore on va dire, une zone de prédilection dans son jeu, qu'il a gentiment développé, il a mis le temps. Je pense que c'est vraiment un joueur qui peut étoffer un effectif défensif dans un premier temps et puis ensuite devenir un titulaire très solide, voire un super joueur. Ouais.
Et tu vois, Kevin, tout à l'heure, quand on parlait de Siaki Ika, tu nous disais, voilà, un nostacle si imposant, Big 12, c'est très très rare. Oui, effectivement, c'est rare, mais il se trouve que cette année, ben, il y en a au moins un deuxième. Il s'appelle Keandre Coburn et il nous vient des Longhorns, l'université de Texas.
Oui, alors c'est un joueur que je suis particulièrement parce que j'aime bien regarder les matchs de Texas. C'est un programme qui est assez historique et puis voilà, c'est un plaisir personnel. Mais c'est vrai que bah, du coup, j'ai pu le remarquer sur toute l'année et puis c'est un joueur qui m'a quand même marqué parce que il a un gabarit assez énorme, mais bah, il reste relativement athlétique et surtout enfin, en fait, ce qui a ressorti le plus pour moi, c'est l'effort qu'il donne dans son jeu en fait. Il n'arrête jamais. Il a vraiment un moteur qui est inarrêtable. Il continue toujours jusqu'à la fin de l'action. Quand il y a un quarterback qui sort de la poche, il va le poursuivre et il a la vitesse malgré tout pour aller embêter en tout cas les quarterbacks. Il a un premier pas qui est très rapide pour son gabarit, je trouve. Après, c'est vrai que bah, au niveau du gabarit, ses bras sont pas très longs par exemple, donc il a un petit peu de peine des fois à sortir des blocs. Sa production n'a pas été énorme, mais comme tu le disais avant, c'est pas uniquement la production statistique qui fait un bon defensive lineman. Et puis ben voilà, après c'est vrai qu'il est un petit peu limité aussi au niveau du rôle qu'il va pouvoir avoir dans une défense en NFL. Mais malgré tout, de nouveau, ça peut être un joueur qui vient étoffer une défense et qui devient un joueur très important, pas forcément dans la statistique, mais vraiment dans la façon de défendre une équipe.
Oui, exactement. Et puis c'est vrai qu'on parle de la NFL comme étant de plus en plus une ligue portée sur le jeu aérien, et c'est pas faux, évidemment. Mais défendre la course, ça reste toujours important. Donc voilà, avoir un defensive tackle tel que Keandre Coburn, ben ça reste important. Ça reste important. Le style de gars que tu vas prendre au quatrième tour, et puis voilà, tu le mettras dans ta rotation, il jouera peut-être pas tous les snaps, il jouera peut-être pas en situation de passe, mais c'est quand même quelqu'un qui va t'apporter. Donc oui, c'est un joueur très intéressant. Donc il y a encore d'autres joueurs, évidemment, mais d'ores et déjà, voilà, on vous a fait une présentation d'une QV qui, quelque part, n'est pas la meilleure du monde. C'est pas la draft 2019 où il y avait Quinnen Williams, Oliver, Christian Wilkins, Dexter Lawrence, Jeffrey Simmons, c'était extraordinaire. Non, c'est pas ce type-là de QV cette année. Mais par contre, vous l'avez compris, avec ce podcast, il y a quand même beaucoup de profils très différents et des profils très intéressants. Et puis en attendant, évidemment, de voir la situation extra-sportive du phénomène Jalen Carter. Et ça, on va voir. Mais en tout cas, c'est déjà une très belle QV. Ben, écoute, je te remercie, Kevin, pour cet épisode. Bonjour à la Suisse, d'ailleurs.
Ben, merci à toi et puis ben, bonjour à la France, du coup. C'est vrai que moi, ça fait toujours plaisir de participer à ça, surtout en période pré-draft qui nous intéresse particulièrement, la draft squad. Et puis, ouais, c'est toujours un plaisir.
Donc, écoutez, ben voilà, on vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend quand vous écoutez ce podcast. Et puis, restez bien connectés. Les fiches draft ont commencé sur le site tous les jours. Un nouveau joueur, il y en aura 50 en tout jusqu'à la draft. Évidemment, il y aura une fois par semaine une vidéo, un scouting report sur un joueur, sur une future star de NFL. Donc, restez bien connectés avec nous sur Touchdown Actu. Allez, on vous souhaite une bonne journée. Bye.
Ciao, ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.